journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une nouvelle bavure policière qui secoue les États-Unis. Cette fois-ci, la victime est un enfant autiste âgé de 13 ans en pleine crise. Sa mère avait appelé les urgences. Son fils est aujourd'hui grièvement blessé. Nous serons aux États-Unis en début de journal. Que faire de vos enfants si l'école ferme pour cause de Covid? Des centaines de parents et de professeurs sont confrontés à une absence totale de consignes des autorités, on l'entendra. À suivre aussi l'expérimentation territoire zéro chômeur, ça marche, mais ça ne va pas assez vite pour ses promoteurs. Le témoignage bouleversant également des témoins de la tuerie de Charlie Hebdo. Et pour finir, des discothèques qui se transforment en bars de nuit afin de contourner les interdictions administratives.
Et je vous rappelle qu'au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui l'économiste Daniel Cohen.
France Inter.
On commence donc, Sébastien, avec cet enfant autiste gravement blessé par un policier américain. Ça se passe à Salt Lake City.
Une affaire qui relance encore le débat sur l'usage disproportionné des armes à feu chez les forces de l'ordre. Les faits se sont déroulés vendredi dernier. Une mère de famille appelle les secours pour demander à ce que son fils de 13 ans, autiste, soit hospitalisé. Il va se retrouver atteint de plusieurs balles. À New York, Benjamin Ely.
Ce soir-là, Golda Barton n'arrive pas à calmer la crise de détresse mentale dans laquelle est plongé son fils, Lyndon Cameron, 13 ans, atteint du syndrome d'Asperger. Paniquée, elle compose le 911, le numéro d'urgence américain. La police de Salt Lake City arrive sur place. Lyndon Cameron prend la fuite, effrayé, course-poursuite. Golda Barton raconte la suite dans cet entretien avec une chaîne de télévision locale. J'ai entendu « Mets-toi à terre, mets-toi à terre !» Et Golda Barton, effondrée, décrit le policier qui ouvre le feu sur son fils à plusieurs reprises. Lyndon Cameron est toujours hospitalisé. Il souffre de blessures à l'épaule, aux intestins, à la vessie et aux chevilles. La police s'est justifiée. Le jeune garçon était soupçonné de menacer des personnes avec une arme, mais aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. Golda Barton explique qu'elle avait prévenu les agents. Je leur ai dit, il n'est pas armé, il n'a rien sur lui. Il est juste furieux. Je leur ai dit, c'est juste un enfant, il a besoin d'attention, il ne se maîtrise pas. Le maire de Salt Lake City a exigé une enquête rapide et transparente. Le cas de Lyndon Cameron fait écho évidemment à celui de Daniel Proud, 41 ans, souffrant de troubles psychiques, mort asphyxié par des policiers après son interpellation le 23 mars à Rochester, dans l'état de New York.
Benjamin Ely depuis New York. Que le reste de l'actualité internationale dominée encore par le coronavirus. En Angleterre, les rassemblements de plus de 6 personnes vont être interdits à partir de lundi. Et puis en Grèce, un incendie déclaré dans l'un des camps de migrants les plus sordides d'Europe, celui de Moria sur l'île de Lesbos, qui héberge plus de 12 000 demandeurs d'asile. Plusieurs feux déclenchés, semble-t-il, par des migrants testés positifs. Aucune victime à ce stade, selon les pompiers.
L'épidémie en France, il est 7h33, Sébastien. C'est cette question qui monte chez les parents d'élèves. Comment s'organiser en cas de fermeture d'école.
Près d'une trentaine d'établissements scolaires sont fermés à ce jour sur 60 000 en France, une toute petite minorité donc, mais dont la liste pourrait s'allonger. Pour les parents, ça veut dire faire garder ses enfants. Pour les mères, ça veut dire réfléchir à des solutions d'accueil, le tout dans un flou total à ce jour, car il n'y a aucune directive claire, Faustine Calmel.
Au niveau réglementaire, rien n'est prévu, s'agace le maire d'une petite commune du Lot-et-Garonne qui a dû fermer son école une semaine après la rentrée. Tous les enfants sont considérés cas contact, y compris la fille de Nathalie, assistante de direction. Et comme les grands-parents sont fragiles, hors de question de leur laisser la petite, il a fallu s'organiser.
Mais moi déjà, j'ai deux employeurs. Le matin, j'ai la chance de travailler pour mon mari. Je vais au bureau avec ma fille, je ferme mon bureau, je reste confinée dans mon bureau. Et l'après-midi, je suis confinée chez moi. Et encore, j'ai la chance d'avoir 20 ans d'ancienneté derrière. Quand j'ai appelé mon patron, il me dit « Non, si t'es la petite, tu restes chez toi. » C'est vous vous débrouillez, quoi. Le chômage partiel, non, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour.
L'école devrait rester fermée au moins jusqu'à lundi prochain. D'ici là, c'est à chacun de se débrouiller. Les parents de Pouillon, dans les Landes, ont eux un peu plus de chance. Là aussi, l'école est fermée. Mais seuls les enseignants sont cas contact. Alors le maire Patrick Willem met en place un service minimum d'accueil.
Les enfants sont en garde à l'école. Alors évidemment, ce n'est pas de l'enseignement scolaire comme on l'entend. C'est parfois des activités beaucoup plus périscolaires, des activités sportives ou ludiques. Mais c'est fait pour que les enfants s'épanouissent et puis que les parents puissent continuer leur activité.
Une décision à l'initiative exclusive du maire. Aujourd'hui, rien n'oblige les élus à prévoir un service minimum en cas de fermeture d'école après la détection d'un cas de Covid.
Faustine Calmel, la pression monte dans les EHPAD pour une vaccination contre la grippe. Le syndicat des EHPAD privés demande que cette vaccination soit rendue obligatoire cette année pour les
les soignants qui d'habitude ne sont que 20 à 30% à se prémunir contre la grippe. Et puis parmi les conséquences économiques du virus, ce plan de restructuration massif à venir chez le Vendéen Beneteau, le constructeur de bateaux qui pourrait supprimer jusqu'à 1400 emplois dans le monde, soit un sixième de ses effectifs mondiaux. C'est un dispositif économique qui coche toutes les cases, mais qui avance encore lentement. On l'appelle le territoire zéro chômeur. L'expérimentation existe depuis 4 ans dans 10 territoires en France. Elle permet l'embauche des personnes au chômage depuis plus d'un an, en mobilisant l'argent normalement distribué sous forme de prestations sociales, comme le RSA ou les APL. Un projet ancré dans les territoires, donc tourné vers la transition écologique et qui donne du travail à ceux qui en sont privés. Bref, une expérience qui fonctionne surtout dans le contexte d'après-Covid. Il est donc question de la développer, de passer de 10 à 30 territoires. Une proposition de loi arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée, mais c'est encore insuffisant pour les porteurs de ce projet, Hélène Philly.
Les résultats sont là. 3 des 10 territoires qui se sont lancés ont réussi à recruter toutes les personnes très éloignées de l'emploi de leur secteur. C'est le cas à Mauléon, dans les Deux-Sèvres. Christophe Boutin est le directeur de l'ESIAM, l'entreprise qui crée ces emplois.
Nous, on est à 76 salariés. On va chercher de l'emploi sur des tâches non concurrentielles. Donc, on est vraiment créateurs d'emplois. Et on a beaucoup de nos emplois qui sont liés à la transition écologique.
1 millier de personnes travaillent aujourd'hui dans les 10 territoires pilotes. 600 autres y sont passés et ont été embauchés ensuite par une autre entreprise. Il y a des obstacles à surmonter pour réussir à générer du chiffre d'affaires, pour former les salariés. Mais les candidats sont nombreux. Ça fait 4 ans que Jacques Lec se mobilise pour que les communes de Bouffémont et Moisselles dans le Val d'Oise soient sélectionnées. Il regrette que l'élargissement de l'expérimentation ne concerne que 30 territoires.
Il faut y aller un peu plus. Il faut montrer que ce projet qui a déjà, avec les 10 territoires habilités, démontré que ça marchait, qu'il y avait beaucoup de choses très positives, et ben qu'il faut, pour pouvoir évaluer, qui est plus que 30 territoires. Ce que je répète tout le temps, celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu.
La discussion en commission fera peut-être bouger ce plafond. 120 territoires sont candidats, une cinquantaine pourrait être prêt dans les 2 ans.
Hélène Philly, l'image du jour en politique, ce sera également ce séminaire de rentrée du gouvernement consacré à l'insécurité, séminaire qui aurait dû se passer à l'Élysée mais qui finalement se déroulera par visioconférence comme au pic de la crise sanitaire. Une précaution suite à la découverte hier que le Premier ministre était cas contact après avoir croisé Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, lui-même positif au coronavirus. Jean Castex va donc rester à l'isolement pour la semaine. Un premier test s'est révélé négatif hier, mais il doit en faire un autre dans quelques jours. Autre actualité politique, la décision des Républicains de reporter après les régionales de 2021 le processus de départage, comme ils l'appellent, pour faire émerger leur candidat à la présidentielle. La droite voulait au départ trancher cette question délicate d'ici à la fin de l'année.
7h38, ils ont été les témoins de la tuerie du 7 janvier 2015.
Oui, comme les rescapés de l'attentat de Charlie Hebdo, eux aussi sont venus à la barre hier des assises spéciales raconter cette journée tragique. Et 5 ans après, Charlotte Piret, leur traumatisme est encore très présent.
Ils ont survécu, certes, sont même indemnes physiquement, mais leur vie a volé en éclats ce 7 janvier 2015. Ils étaient membres de Charlie Hebdo ou travaillaient dans le même immeuble. Qu'importe, ce sont les mêmes séquelles quotidiennes qu'ils racontent à la barre. Les insomnies, il y a une forme d'angoisse qui fait que vous n'arrivez pas à vous endormir, raconte ce témoin. Les cauchemars évoquent d'autres. Cette chose absolument effroyable avec laquelle je vivrai jusqu'à la fin de mes jours. L'hypervigilance, je ne supporte plus les bruits, les gens qui crient, l'irritabilité aussi. Parfois, je suis hors de contrôle, confesse ce jeune homme. L'incapacité à se concentrer, à prendre les transports en commun, l'avion, à traverser une foule, la peur. J'ai peur qu'on me tue, j'étais une battante, maintenant j'ai peur de mon ombre, explique cette cadre. Les antidépresseurs, les anxiolytiques, la culpabilité encore, celle d'avoir survécu ou de n'avoir rien pu faire. Parfois, dans mon imagination débordante, raconte ce quinquagénaire à la barre, je me transforme en super-héros qui change la situation. Et dans tout cela, il y a aussi les messages d'espoir. Je suis en vie et j'aime la vie. Elle est belle quand même.
Charlotte Piret, le premier suspect dans l'affaire des chevaux mutilés, a été mis hors de cause hier. Cet homme de 50 ans en garde à vue depuis 2 jours niait son implication depuis le début et son alibi a pu être vérifié.
Et on termine, Sébastien, sur des images de pistes de danse à la limite de la légalité.
Oui, des images qui tournent sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. Des clients qui dansent parfois sans masque, collés serrés dans des boîtes de nuit célèbres de Paris. Or, ces discothèques sont officiellement toujours fermées pour raisons sanitaires. Comment donc ont-elles pu rouvrir? Eh bien, en se transformant en bar de nuit, pour qui la législation est beaucoup plus souple, Rémi Brancato.
La musique a retenti samedi pour la première fois depuis 6 mois au Quai, près de la Madeleine à Paris. Mais attention, la boîte de nuit n'en était pas une, nous assure Alexis Blas, son gérant.
J'ai entrepris des démarches à la préfecture de police pour ouvrir dans un format bar. C'est le seul format qui nous est autorisé pour survivre. En tant que discothèque, j'avais l'autorisation de nuit jusqu'à 7h du matin. Désormais, je dois fermer à 2h.
La préfecture de police de Paris dit n'avoir donné aucune autorisation d'ouverture. Alexis Blas assure lui avoir été contrôlé par la police et respecter un protocole, 2 fois moins de clients, une entrée sur réservation de table et impossible d'accéder à la piste de danse, des règles difficiles à faire respecter.
Le protocole sanitaire a été respecté à 80-90%. Les gens ont dansé, je dirais, 20-30% de la salle seulement. Ce que je ne veux pas, c'est que les bars s'octroient une clientèle de discothèque, alors que moi, qui suis discothèque, ne puisse pas ouvrir comme un bar.
Car effectivement, beaucoup de bars de nuit sont ouverts, assure Coco, un client habitué.
Depuis déjà un peu plus d'un mois, les bars dansants sont tous pleins à craquer parce que toutes les boîtes sont fermées.
Et là aussi, les gestes barrières sont plus qu'aléatoires.
On a le droit de danser autour de sa table, en gardant le masque. Dans la réalité, en rentrant avec le masque, personne ne gardait le masque jusqu'à la fin.
Et selon lui, même si c'est interdit, les personnels laissent souvent les clients accéder à la piste de danse.
Voilà, des pistes de danse qui flirtent avec la ligne jaune. C'était Rémi Brancato.
Sébastien Legénie, merci.